L'adolescent Flaubert a traversé des tragédies sérieuses.
Henri Guillemin, critique littéraire.
Voyez-vous, il avait 28 ans, je crois, lorsqu'il dit, parlant de son adolescence, « Nous tournions entre la folie et le suicide. » Rien que ça. Eh bien oui, rien que ça. Et c'est vrai, il a traversé des choses graves. Quand on essaye de voir ce qui s'est passé chez cet adolescent Flaubert, on s'aperçoit qu'il y a une extraordinaire ressemblance de son aventure avec celle de Rimbaud.
Ça peut pas faire de mal.
Tout a commencé, ça commence toujours comme ça, par la découverte de ce que l'on appelle les réalités de l'amour. Il va l'écrire dans une lettre plus tard à Louis Collet. Il lui dit « J'ai passé, de bonne heure, par une débauche bien supérieure à mon âge, afin de savoir. » Afin de savoir quoi ? Ben, afin de savoir jusqu'où peut conduire l'abjection humaine et tout ce que nous portons en nous de démoniaque.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Chaque matin, j'allais la voir baigner. Je la contemplais de loin sous l'eau. J'enviais la vague molle et paisible qui battait sur ses flancs et couvrait d'écume cette poitrine haletante. Je voyais le contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la couvraient. Je voyais son cœur battre, sa poitrine se gonfler. Je contemplais machinalement son pied se poser sur le sable et mon regard restait fixé sur la trace de ses pas. Et j'aurais pleuré, presque, en voyant le flot les effacer lentement. Et puis, quand elle revenait et qu'elle passait près de moi, que j'entendais l'eau tomber de ses habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence. Je baissais les yeux. Le sang me montait à la tête. J'étouffais. Je sentais ce corps de femme à moitié nu passer près de moi avec le parfum de la vague. Sourd et aveugle, j'aurais deviné sa présence, car il y avait en moi quelque chose d'intime et de doux qui se noyait en extase et en gracieuse pensée quand elle passait ainsi. Je crois voir encore la place où j'étais fixée sur le rivage. Je vois les vagues accourir de toutes parts, se briser, s'étendre. Je vois la plage festonner d'écume. J'entends le bruit des voix confuses des baigneurs parlant entre eux. J'entends le bruit de ses pas. J'entends son haleine quand elle passait près de moi. J'étais immobile de stupeur, comme si la Vénus fût descendue de son piédestal et s'était mise à marcher. C'est que, pour la première fois, alors, je sentais mon cœur. Je sentais quelque chose de mystique, d'étrange comme un sens nouveau. J'étais baigné de sentiments infinis, tendres. J'étais bercé d'images vaporeuses, vagues. J'étais plus grand et plus fier à la fois. J'aimais.
C'était un extrait des Mémoires d'un fou, où Flaubert évoque sa rencontre avec Madame Schlesinger sur une plage de Trouville en 1836, alors qu'il n'a que 15 ans. Elle restera le grand amour de sa vie et sera le modèle certainement de Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale.
Avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse.
7 ans après le procès de Madame Bovary, en 1857, Gustave Flaubert entreprend, en 1864, donc, la rédaction de l'Éducation sentimentale, en réponse à la principale critique de Sainte-Beuve qui lui reprochait la trivialité de son sujet. L'éducation aura donc un sujet élevé, la bourgeoisie, à travers le portrait et la déchéance d'un jeune dandy, Frédéric Moreau. Bercé d'illusions, cet étudiant natif de Nogent part à la conquête de Paris, de ses cercles mondains et bien sûr des femmes. Pour parcourir ce grand roman d'apprentissage, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir une magnifique actrice, artiste, muse entre autres de François Truffaut et de plein d'autres, lectrice passionnée aussi de Flaubert, Fanny Ardant. Merci beaucoup Fanny d'être avec nous ce soir. Bonjour.
Bonjour.
C'est au bord du bateau qui le ramène dans sa province natale après avoir passé son baccalauréat à Paris et rendu visite à un oncle au Havre que le jeune Frédéric Moreau rencontre celle qui deviendra l'objet d'une passion platonique. Extrait du chapitre 1er de la première partie.
Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose. Et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle, posé contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse coiffée d'un foulard se présenta en tenant par la main une petite fille déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux. Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût 7 ans bientôt. Sa mère ne l'aimerait plus. On lui pardonnait trop ses caprices. Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait une découverte, une acquisition. Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Elle avait ramené des îles, cette négresse, avec elle. Un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille sans couvrir les pieds, dormir dedans. Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu. Il allait tomber dans l'eau. Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Leurs yeux se rencontrèrent. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Il n'aurait rien voulu ajouter, rien retranché à sa personne. L'univers venait tout à coup de s'élargir. Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeait. Et bercé par le mouvement, les paupières à demi closes, le regard dans les nuages, il s'abandonnait à une joie rêveuse et infinie.
Deux mois plus tard, Frédéric s'est installé à Paris pour commencer ses études de droit. Il y est bientôt rejoint par un camarade de lycée, Charles Deslauriers. Mais le soir même de l'arrivée de son colocataire, Frédéric est invité pour la première fois à une réception chez M. et Mme Arnoux, boulevard Montmartre, au-dessus de leur galerie d'art. À la fin de la soirée, lorsque Mme Arnoux le salue, Frédéric est transporté d'espoir et sent renaître ses ambitions. Il ne sait rien encore des désillusions qui l'attendent. Extrait du chapitre 4 de la première partie. Madame Arnoux s'était avancée dans l'antichambre. Dithmer et Hussonnet la saluaient, elle leur tendit la main. Elle l'attendit également à Frédéric, et il éprouva comme une pénétration à tous les atomes de sa peau. Il quitta ses amis, il avait besoin d'être seul. Son cœur débordait. Pourquoi cette main offerte? Était-ce un geste irréfléchi ou un encouragement? Allons donc, je suis fou. Qu'importait d'ailleurs, puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise dans son atmosphère. Les rues étaient désertes. Quelquefois une charrette lourde passait en ébranlant les pavés. Les maisons se succédaient avec leurs façades grises, les fenêtres closes. Et il songeait dédaigneusement à tous ces êtres humains couchés derrière ces murs qui existaient sans la voir et dont pas un même ne se doutait qu'elle vécût. Il n'avait plus conscience du milieu, de l'espace, de rien. Et battant le sol du talon, en frappant avec sa canne les volets des boutiques, il allait toujours devant lui au hasard, éperdu, entraîné. Un air humide l'enveloppa, il se reconnut au bord des quais. Les réverbères brillaient en deux lignes droites, indéfiniment, et de longues flammes rouges vacillaient dans la profondeur de l'eau. Elle était de couleur ardoise, tandis que le ciel, plus clair, semblait soutenu par les grandes masses d'ombre qui se levaient de chaque côté du fleuve. Des édifices que l'on n'apercevait pas faisaient des redoublements d'obscurité. Un brouillard lumineux flottait au-delà sur les toits. Tous les bruits se fondaient en un seul bourdonnement. Un vent léger soufflait. Il s'était arrêté au milieu du pont neuf et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l'air. Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d'intarissable, un afflux de tendresse qui l'énervait comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À l'horloge d'une église, une heure sonna, lentement, pareille à une voix qui l'eût appelé. Alors il fut saisi par un de ces frissons de l'âme, où il vous semble qu'on est transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire dont il ne savait pas l'objet lui était venue. Il se demanda sérieusement s'il serait un grand peintre ou un grand poète. Et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Madame Arnoux. Il avait donc trouvé sa vocation. Le but de son existence était clair maintenant, et l'avenir infaillible. Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu'un qui ronflait dans le cabinet noir près de la chambre. C'était l'autre. Il n'y pensait plus. Son visage s'offrait à lui dans la glace. Il se trouva beau et resta une minute à se regarder. Apprenant que sa mère a contracté des dettes, Frédéric se voit contraint d'abandonner sa vie parisienne et de rentrer à Nogent. Après plusieurs mois d'oisiveté, il touche un héritage inespéré. La deuxième partie du roman s'ouvre sur le retour triomphal de Frédéric à Paris, où il s'installe dans un appartement cossu. Le couple Arnoux a déménagé rue Paradis-Poissonnière. Madame Arnoux est devenue mère pour la seconde fois, et Monsieur Arnoux dirige désormais une faïencerie. Entre-temps, Frédéric a noué des relations avec un riche banquier d'affaires, Dambreuse, auprès de qui il nourrit des ambitions politiques. Ce soir-là, Frédéric hésite à lui rendre visite, mais M. Arnoux entraîne le jeune homme dans une soirée mondaine, un bal costumé, où il fait la connaissance de Rosanette, une ravissante courtisane. Il est 2 heures du matin quand les convives passent à table. Extrait du premier chapitre de la deuxième partie.
On ne dansait plus. Avec un froufrou d'étoffe, les femmes, tassant leurs jupes, leurs manches et leurs écharpes, s'assirent les unes après des autres. Les hommes, debout, s'établirent dans les angles. Pellerin et M. Oudry furent placés près de Rosanette. Arnaud était en face. Les vins circulaient, les places succédaient, un tumulte de paroles bientôt s'éparpilla en conversation particulière. On se lançait de loin une orange, un bouchon. On quittait sa place pour causer avec quelqu'un. Mademoiselle Vatnaz mangea presque à elle seule le buisson d'écrevisses et les carapaces sonnaient sous ses longues dents. Quelle fourchette ! Répétait l'enfant de cœur ébahi. « Quelle fourchette !» Et la sphinx buvait de l'eau de vie, criait à plein gosier, se démenait comme un démon. Tout à coup, ses joues s'enflèrent, et ne résistant plus au sang qui l'étouffait, elle porta sa serviette contre ses lèvres, puis la jeta sous la table. Alors, Frédéric frissonna, pris d'une tristesse glaciale, comme s'il avait aperçu des mondes entiers de misère et de désespoir, un réchaud de charbon, près d'un lit de sangle, et les cadavres de la morgue en tablier de cuir avec le robinet d'eau froide qui coule sur leurs cheveux. Cependant, Hussonnet, accroupi au pied de la femme sauvage, braillait d'une voix enrouée pour imiter l'acteur Grasso. « Ne sois pas cruel, ô Céluta, cette petite fête de famille est charmante. Enivrez-moi de volupté, mes amours. Folichonnons, folichonnons !» Et il se mit à baiser les femmes sur l'épaule. Elle tressaillait, piquée par ses moustaches. Puis, il imagina de casser contre sa tête une assiette en la heurtant d'un petit coup. D'autres l'imitèrent, les morceaux de faïence volaient comme des ardoises par grand vent, et la débardeuse s'écria « Ne vous gênez pas, ça ne coûte rien. Hein, le bourgeois qui en fabrique nous en cadote. » Tous les yeux se portèrent sur Arnaud. Il répliqua « Ah, sur facture, permettez. » Tenant sans doute à passer pour n'être pas ou n'être plus l'amant de Rosanette. Mais deux voix furieuses s'élevèrent. C'était le chevalier Moyen-Âge et le postillon russe qui se disputaient. Ils voulaient se battre, tous s'interposer. Rosanette, ayant frappé avec son couteau sur un verre, finit par obtenir du silence. Et s'adressant au chevalier qui gardait son casque, puis au postillon coiffé d'un bonnet à longs poils, « Oh, retirez votre casserole, ça m'échauffe. Et vous, là-bas, votre tête de loup, voulez-vous bien m'obéir, saprelotte ? Regardez donc mes épaulettes, je suis votre maréchal. » Ils s'exécutèrent et tous applaudirent en criant « Vive la maréchale ! Vive la maréchale !» Alors, elle prit sur le poêle une bouteille de vin de champagne et elle le versa de haut dans les coupes qu'on lui tendait. Comme la table était trop large, les convives, les femmes surtout, se portèrent de son côté en se dressant sur la pointe des pieds, sur les barreaux des chaises, ce qui forma pendant une minute un groupe pyramidal de coiffures, d'épaules nues, de bras tendus, de corps penchés, et de longs jets de vin rayonnaient dans tout cela, car le Pierrot et Arnoux, aux deux angles de la salle, lâchant chacun sa bouteille, éclaboussaient les visages. Les petits oiseaux de la volière, dont on avait laissé la porte ouverte, envahirent la salle, tout effarouché. Les musiciens étaient partis. On tira le piano de l'antichambre dans le salon. La Vatnaz s'y mit. Et, accompagnée de l'enfant de chœur qui battait du tambour de basque, elle entama une contredanse avec furie, tapant les touches comme un cheval qui piaffe, et se dandinant de la taille pour mieux marquer la mesure. La maréchale entraîna Frédéric. Hussonnet faisait la roue, la débardeuse se disloquait comme un clown, le Pierrot avait des façons d'orang-outan, la sauvagesse, les bras écartés, imitait l'oscillation d'une chaloupe. Enfin, tous, n'en pouvant plus, s'arrêtèrent. Et on ouvrit une fenêtre. Le grand jour entra, avec la fraîcheur du matin. Il y eut une exclamation d'étonnement, puis un silence. Des rubans, des fleurs et des perles jonchaient le parquet. Des taches de punch et de sirop poissaient les consoles. Les tentures étaient salies, les costumes fripés, poudreux. Les nattes pendaient sur les épaules, et le maquillage, coulant avec la sueur, découvrait des faces blêmes dont les paupières rouges clignotaient. Arnoux et Frédéric s'en allèrent ensemble, comme ils étaient venus. De retour chez lui, Frédéric se coucha, avec une douleur intolérable à l'occiput, et il but une carafe d'eau pour calmer sa soif. Une autre soif lui était venue, celle des femmes, du luxe, et de tout ce que comporte l'existence parisienne. Il voyait passer et repasser continuellement les épaules de la poissarde, les reins de la débardeuse, la chevelure de la sauvagesse. Puis, deux grands yeux noirs qui n'étaient pas dans le bal parurent, et légers comme des papillons, ardents comme des torches, ils allaient, venaient, vibraient, montaient dans la corniche, descendaient jusqu'à sa bouche. Frédéric s'acharnait à reconnaître ses yeux, sans y parvenir. Mais déjà, le rêve l'avait pris. Il lui semblait qu'il était attelé près d'Arnaud, au timon d'un fiacre, et que la maréchale, à califourchon sur lui, les ventrait avec ses éperons d'or.
S'embrasait dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons, alors que tout autour de moi semblait vibrer, tourbillonner dans des éclats de rire gras. Mes lèvres se sont desséchées, je les avais brûlées pour toi, fardées de rouge et puis d'étoiles amassées, cachées sous mon voile à l'aube, en te croyant mon roi. Mes lèvres sont mortes à minuit, sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Bien sûr tu m'avais prévenu, venant auprès de moi, que toi tu ne te mettrais pas à nu, que tu venais par désarroi, mais tes mains tu me les tendais, tes mains trop grandes et tes doigts d'or, je les ai laissés me serrer, ils sont à la taille de mon corps. Mes lèvres sont mortes à minuit, mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Quand dans ta nuit tu m'as couché, c'est à ma bouche que tu pressais ta tête lourde et ta douleur. J'étais ton ange, ta douceur, veilleuse de nuit, j'ai posé mes doigts sur tes yeux enfoncés, car je le sentais exploser tes yeux au creux de ta pensée. Mes lèvres sont mortes à minuit, mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Ton ange dans ce tourbillon rêvait quand ses lèvres ont pris feu, elle brûlait pour le réveillon dans une brèche de tes yeux. Mes lèvres sont mortes à minuit au premier son du carillon, dans les 12 coups m'ont réduite en une pluie de cotillons. Mes lèvres sont mortes à minuit, mes lèvres sont mortes à minuit.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Jacques Weber.
Comme vous le savez, Flaubert est un homme qui polit sa phrase, qui travaille, mais comme un forcené, c'est un artisan, c'est un forgeron de la phrase. Et dans ses œuvres considérables, il y a d'évidence un grand projet de littérature. Comme il dit « vivons en bourgeois et pensons en demi-dieu ». Et il s'acharne à ça.
Mais vous faites quelle idée de Flaubert aujourd'hui, le jouant comme vous le faites?
Je pensais que c'était un être féroce et taciturne. Et plus je le joue, plus je me rends compte que c'était un type qui avait une colère joyeuse, qui aimait tellement la vie qu'il la scrutait, qu'il l'autopsiait, quoi. Il me fait penser à Michel-Ange qui déterre les cadavres pour mieux peindre l'homme.
Un exemple de l'ironie de Flaubert, le duel au bois de Boulogne. Voici sans doute la scène la plus drôle du roman, le duel entre Frédéric et Sisy qui s'affrontent suite à une crise de jalousie à propos de Rosanette. À la veille de la révolution de 1848, dont ils ne voient rien venir, Frédéric et ses amis prennent encore au sérieux ce code d'honneur, vestige de l'ancien régime. Dans ce passage, Flaubert condamne la lâcheté et le romantisme désuet de toute une génération. Extrait du chapitre 4 de la deuxième partie. Je vais me battre. Tiens, je vais me battre. C'est drôle. Et comme il marchait dans sa chambre en passant devant sa glace, il s'aperçut qu'il était pâle. Est-ce que j'aurais peur? Une angoisse abominable le saisit à l'idée d'avoir peur sur le terrain. Si j'étais tué, cependant, mon père est mort de la même façon. Ouais, je serais tué. Et tout à coup, il aperçut sa mère en robe noire. Des images incohérentes se déroulèrent dans sa tête. Sa propre lâcheté l'exaspéra. Il fut pris d'un paroxysme de bravoure, d'une soif carnassière. Un bataillon ne l'eût pas fait reculer. Cette fièvre calmée, il se sentit avec joie inébranlable. Pour se distraire, il se rendit à l'opéra où l'on donnait un ballet. Il écouta la musique, lorgna les danseuses et but un verre de punch pendant l'entracte. Mais rentrant chez lui, la vue de son cabinet, de ses meubles, où il se retrouvait peut-être pour la dernière fois, lui causa une faiblesse. Il descendit dans son jardin. Les étoiles brillaient. Il les contempla. L'idée de se battre pour une femme le grandissait à ses yeux, l'ennoblissait. Puis il alla se coucher tranquillement. Il n'en fut pas de même pour Sisy. Il souhaita que Frédéric, pendant la nuit, mourût d'une attaque d'apoplexie, ou qu'une émeute, survenant, il eût le lendemain assez de barricades pour fermer tous les abords du bois de Boulogne, ou qu'un événement empêchât un des témoins de s'y rendre, car le duel, faute de témoins, manquerait. Il avait envie de se sauver par un train express n'importe où. Il regretta de ne pas savoir la médecine pour prendre quelque chose qui, sans exposer ses jours, ferait croire à sa mort. Il arriva jusqu'à désirer être malade gravement. Si le courage pourtant consiste à vouloir dominer sa faiblesse, le vicomte fut courageux car, à la vue de ses témoins qui venaient le chercher, le lendemain matin, il se roidit de toutes ses forces, la vanité lui faisant comprendre qu'une reculade le perdrait. Monsieur de Camoin le complimenta sur sa bonne mine. Mais en route, le bercement du fiacre et la chaleur du soleil matinal l'énervèrent. Son énergie était retombée. Il ne distinguait même plus où l'on était. À 7h10, on arriva devant la porte Maillot. Frédéric et ses témoins s'y trouvaient, habillés de noir tous les trois. Reguimbard portait une espèce de longue boîte à violon, spéciale pour ce genre d'aventure. On échangea froidement un salut. Puis tous s'enfoncèrent dans le bois de Boulogne, par la route de Madrid, afin d'y trouver une place convenable. Frédéric jeta son cigare qui le gênait et continua d'un pied ferme. Le vicomte avançait par derrière, appuyé sur le bras de ses deux témoins. Sisy se rappelait les jours heureux où, monté sur son alezan et le lorgnon dans l'œil, il chevauchait à la portière des calèches. Ses souvenirs renforçaient son angoisse. Une soif intolérable le brûlait. La susurration des mouches se confondait avec le battement de ses artères. Ses pieds enfonçaient dans le sable. Il lui semblait qu'il était en train de marcher depuis un temps infini. L'endroit fut choisi de manière à répartir également le niveau du terrain. On marqua les deux places où les adversaires devaient se poser. Puis Reguimbard ouvrit sa boîte. Elle contenait sur un capitonnage de basane rouge quatre épées charmantes, creuses au milieu, avec des poignées garnies de filigranes. Un rayon lumineux traversant les feuilles tomba dessus, et elles apparurent à Sisy briller comme des vipères d'argent sur une mare de sang. Le citoyen fit voir qu'elles étaient de longueur pareille. Il prit la troisième pour lui-même afin de séparer les combattants en cas de besoin. Monsieur de Caumoin tenait une canne. Il y eut un silence. On se regarda. Toutes les figures avaient quelque chose d'effaré ou de cruel. Frédéric mit à bas sa redingote et son gilet. Caumoin aida Sisy à faire de même. Sa cravate étant retirée, on aperçut à son cou une médaille bénie. Cela fit sourire de pitié Reguimbard. Alors, monsieur de Caumoin, pour laisser à Frédéric encore un moment de réflexion, tâcha d'élever des chicanes. Il réclama le droit de mettre un gant, celui de choisir l'épée de son adversaire avec la main gauche. Reguimbard, qui était pressé, ne s'y refusa pas. Enfin, le baron, s'adressant à Frédéric, « Tout dépend de vous, monsieur. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. » Le citoyen s'indigna. « Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards, fichtre ? En garde !» Les adversaires étaient l'un devant l'autre, leurs témoins de chaque côté. Il cria le signal. « Allons !» Sisy devint effroyablement pâle. Sa lame tremblait par le bout comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent. Il tomba sur le dos, évanoui. Frédéric a reçu des nouvelles de sa mère qui souhaite le marier à la fille du père Roch, à Nogent. Peu enthousiaste à l'idée d'épouser une fille de la campagne, Frédéric fuit ses obligations dans les bras de Rosanette, tout en pensant à Madame Arnoux. Cette dernière a appris par des lauriers le projet de mariage de Frédéric. Le voici dans le magasin de Monsieur Arnoux pour parler affaires. Il tombe nez à nez avec son épouse. Extrait du chapitre 6 de la seconde partie du roman. Frédéric monta dans le magasin et ne vit personne. Il côtoya la longue étagère chargée de faïences qui occupait d'un bout à l'autre le milieu de l'appartement. Puis arrivé au fond, devant le comptoir, il marcha plus fort pour se faire entendre. La portière se relevant, Madame Arnoux parut. « Comment vous ici, vous ?»«
Oui. »
balbutia-t-elle un peu troublée.
« Je cherchais... »
Il aperçut son mouchoir près du pupitre et devina qu'elle était descendue chez son mari pour se rendre compte, éclaircir sans doute une inquiétude.
« Mais... » Vous avez peut-être besoin de quelque chose ? »
dit-elle. Un rien, madame.
Oh, ces commis sont intolérables. Ils s'absentent toujours.
Elle le regarda ironiquement.
Eh bien ? Et ce mariage ?
Quel mariage ?
Le vôtre.
Moi ? Jamais de la vie. Elle fit un geste de dénégation. Quand cela serait après tout, on se réfugie dans le médiocre par désespoir du beau qu'on a rêvé, dit Frédéric.
Tous vos rêves, pourtant, n'étaient pas si candides.
Que voulez-vous dire?
Quand vous vous promenez aux courses avec des personnes.
Il maudit la maréchale. Un souvenir lui revint. Mais c'est vous-même autrefois qui m'avez prié de la voir dans l'intérêt d'Arnoux.
Et vous en profitez pour vous distraire?
Mon Dieu, oublions toutes ces sottises.
C'est juste, puisque vous allez vous marier.
Et elle retenait son soupir en mordant ses lèvres. Alors il s'écria, « Mais je vous répète que non. Pouvez-vous croire que, avec mes besoins d'intelligence, mes habitudes, j'aille m'enfouir en province pour jouer aux cartes, surveiller des maçons et me promener en sabots? Dans quel but, alors? On vous a conté qu'elle était riche, n'est-ce pas? Hein, je me moque bien de l'argent. Est-ce qu'après avoir désiré tout ce qu'il y a de plus beau, de plus tendre, de plus enchanteur, une sorte de paradis sous forme humaine, et quand je l'ai trouvé enfin, cet idéal, quand cette vision me cache toutes les autres, et lui prenant la tête à deux mains, il se mit à la baiser sur les paupières en répétant « Non, 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 jamais je ne me marierai, jamais, jamais. » Elle acceptait ses caresses, figée par la surprise et par le ravissement.
Les convenances les plus simples exigent maintenant que je ne vous revoie plus.
Oh, je vous connais. Vous n'avez personne qui réponde à vos besoins d'affection, de dévouement. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne vous offenserai pas, je vous le jure. Et il se laissa tomber sur les genoux, malgré lui, s'affaissant sous un poids intérieur trop lourd.
Levez-vous,
dit-elle.
Je le veux.
Et elle lui déclara impérieusement que s'il n'obéissait pas, il ne la reverrait jamais. « Ah, je vous en défie bien, » reprit Frédéric. « Qu'est-ce que j'ai à faire dans le monde? Les autres s'évertuent pour la richesse, la célébrité, le pouvoir. Moi, je n'ai pas d'état. Vous êtes mon occupation exclusive, toute ma fortune, le but, le centre de mon existence, de mes pensées. Je ne peux pas plus vivre sans vous que sans l'air du ciel. Est-ce que vous ne sentez pas l'aspiration de mon âme monter vers la vôtre et qu'elles doivent se confondre et que j'en meure ?» Madame Arnoux se mit à trembler de tous ses membres.
« Oh, allez-vous-en. » « Je vous en prie. »
L'expression bouleversée de sa figure l'arrêta. Puis il fit un pas, mais elle reculait en joignant les mains.
« Laissez-moi, au nom du ciel, de grâce. »
Et Frédéric l'aimait tellement qu'il sortit. Tableau des émeutes parisiennes de 1848. Le début de la troisième partie du roman est célèbre pour la description faite par Flaubert de la révolution 1848 à Paris. Trois jours durant, le peuple de Paris, à la suite d'une fusillade, se soulève et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Le roi Louis-Philippe sera contraint d'abdiquer, mettant ainsi fin à la monarchie de Juillet. Frédéric est le témoin attentif de ces événements, mais ne s'implique à aucun moment dans les combats des émeutiers. Fasciné par ce soulèvement populaire, il descend dans les rues de Paris pour assister à ce moment historique. Extrait du chapitre 1er de la troisième partie.
Les tambours battaient la charge, des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas. Fasciné d'ailleurs et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. La troupe de ligne avait disparu et les municipaux restaient seuls à défendre le poste. Un flot d'intrépides se rua sur le perron. Ils s'abattirent. D'autres survinrent et la porte, ébranlée sous des coups de barre de fer, retentissait. Les municipaux ne cédaient pas, mais une calèche bourrée de foin et qui brûlait comme une torche géante fut traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres, l'édifice se mit à fumer partout, comme une solfatare, et de larges flammes, au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place on tirait, les balles sifflaient. L'eau de la fontaine crevait, se mêlait au sang, faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait. Cela faisait rire. Tout à coup, la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours comme un fleuve refoulé par une marée d'équinoxe avec un long mugissement sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessin, jusqu'à des corbeilles de tapisseries. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser ? La canaille s'affubla ironiquement de dentelles et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. La populace, maîtresse des caves, se livrait à une horrible godaille. Le vin coulait en ruisseaux, mouillait les pieds, les voyous buvaient dans des culs de bouteille et vociféraient en titubant. « Sortons de là, » dit Hussonnet. « Ce peuple me dégoûte. » Tout le long de la galerie d'Orléans, des blessés gisaient par terre sur des matelas, ayant pour couverture des rideaux de pourpre. Et de petites bourgeoises du quartier leur apportaient des bouillons et du linge. « N'importe, » dit Frédéric. « Moi, je trouve le peuple sublime. »
Pierre-Marc de Biasi, critique littéraire.
Le roman est d'une certaine façon autobiographique et d'une certaine façon une manière pour Flaubert de régler ses comptes avec sa propre histoire. Et il pense avec raison que son livre était une critique des idéologies utopistes de droite et de gauche et de cette sorte d'imposture mentale qu'a été la sentimentalité. Mais ça, c'est une vieille affaire hein, pour lui. Déjà dans Madame Bovary, ce qui lui paraît le plus clair, c'est que le romantisme a inventé en fait une génération d'hommes qui, sous des dehors un peu évaporés, idéalistes, ont construit une des sociétés les plus violentes de l'histoire.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Dans la petite rue qui mène au bout du port, en face de l'atelier des dentelières, en haut de l'escalier qui monte à la verrière, Loulou est restée chez elle hier au soir encore. La pluie sous la lumière des lampadaires tombait sur les vélos rangés dehors, adossés au mur le long du magasin de sport. Je suis resté assis comme ça au moins une heure entière. Changer sa vie et son décor. Elle dit qu'elle a trouvé enfin son nécessaire. Oui, ses nouveaux amis valent mieux que ceux d'hier. On pouvait voir passer leur ombre sur le stade. C'était comme une soirée d'anniversaire. On les entendait rire jusqu'au dehors. Et puis la pluie est partie doucement avec le vent du nord. Je suis rentré tranquille à pied sous la nuit claire. Et toi qui vis toujours dans ton imaginaire, toi qui te promènes partout l'air abattu, ce serait bien que tu comprennes maintenant qu'il n'y a plus rien à faire, que tu retrouves un jour ou l'autre ta raison perdue.
Suivons les étapes laborieuses de l'écriture de l'éducation sentimentale. Voici des extraits de la correspondance de Flaubert. À Jules Duplan, le 15 avril 1863.
J'aimerais mieux écrire un livre de passion, mais on ne choisit pas ces sujets. On les subit.
À Mademoiselle Leroyer de Chantepie, 6 octobre 1864. Je veux faire l'histoire morale des hommes de ma génération. Sentimentale serait plus vrai. J'ai beaucoup de mal et je suis plein d'inquiétude. À Mademoiselle Leroyer de Chantepie, toujours le 11 mai 1865.
Au mois de septembre dernier, je me suis mis, après beaucoup d'hésitation, à un grand roman qui va me demander des années et dont le sujet ne me plaît guère. J'ai devant moi une montagne à gravir et je me sens légère et fatiguée et la poitrine étroite.
À sa nièce Caroline, le 14 août 1865. Je crois que je suis en retrain de travailler. Je me suis couché cette nuit à 4 heures et je recommence à regueuler dans le silence du cabinet d'une façon congrue. Ça me fait du bien. Et voici la fin de la dernière partie du roman. Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et Deslauriers causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse, laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mademoiselle Roque, conta que sa femme, un beau jour, s'était enfuie avec un chanteur. Pour se laver un peu du ridicule, il s'était compromis dans sa préfecture par des excès de zèle gouvernemental. On l'avait destitué. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonces, pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, ayant mangé les deux tiers de sa fortune, ils vivaient en petits bourgeois. Puis ils s'informèrent mutuellement de leurs amis. Martinon était maintenant sénateur. Lucenay occupait une haute place où il se trouvait avoir sous sa main tous les théâtres et toute la presse. Sisy, enfoncé dans la religion et père de 8 enfants, habitait le château de ses aïeux. Pellerin, après avoir donné dans le fourriérisme, l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire, était devenu photographe. Et sur toutes les murailles de Paris, on le voyait représenté en habit noir, avec un corps minuscule et une grosse tête. « Et ton intime sénécal ?» demanda Frédéric. « Disparu, je ne sais. Et toi, ta grande passion, Madame Arnoux ?»« Elle doit être à Rome avec son fils, lieutenant de chasseur. » »« Et son mari ?»« Mort l'année dernière. » »« Tiens, » dit l'avocat. Et ils résumèrent leur vie. Ils l'avaient manqué, tous les deux. Celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison? C'est peut-être le défaut de ligne droite, dit Frédéric. Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte de 1000 choses secondaires, plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi, trop de sentiments. Puis ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés. Frédéric reprit. Ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois, à Sens, quand tu voulais faire une histoire critique de la philosophie et moi un grand roman Moyen-Âge sur nos gens dont j'avais trouvé le sujet dans Fourassard. Comment messire Brocard de Fénestrange et l'évêque de Troyes asseyirent messire Eustache d'Abressicourt, te rappelles-tu? Et exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient « Te rappelles-tu ?» Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves, leurs premières pipes fumées, les distributions des prix, la joie des vacances. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque. On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turque. Et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement situé au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poisson rouge près d'un pot de réséda sur une fenêtre. Des demoiselles en camisole blanche, avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles, frappaient au carreau quand on passait, et le soir, sur le pas de la porte, chantonnait doucement d'une voix rauque. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases. L'endroit que vous savez, une certaine rue, au bas des ponts. Les fermières des alentours en tremblaient pour leur mari. Les bourgeoises le redoutaient pour leur bonne, parce que la cuisinière de monsieur sous le préfet y avait été surprise. Et c'était bien entendu l'obsession secrète de tous les adolescents. Or, un dimanche, pendant qu'on était aux vêpres, Frédéric et des lauriers, s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de madame Moreau, puis sortirent par la porte des champs, et après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque, en tenant toujours leur gros bouquet. Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition, les murent tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toute riait, joyeuse de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Frédéric. « Oui, peut-être bien, c'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Deslauriers. En guise de conclusion, la dernière lettre de Gustave Flaubert à Madame Schlesinger.
Croisset, samedi 5 octobre 1872. On m'a donné un chien. Je me promène avec lui en regardant l'effet du soleil sur les feuilles qui jaunissent. Et comme un vieux, je rêve sur le passé, car je suis un vieux. L'avenir pour moi n'a plus de rêve. Mais les jours d'autrefois se représentent comme baignés dans une vapeur d'or. Sur ce fond lumineux où de chers fantômes me tendent les bras, la figure qui se détache le plus splendidement, c'est la vôtre. Oui, la vôtre. Ô pauvre Trouville. Écrivons-nous de temps à autre, ne serait-ce qu'un mot, pour savoir que nous vivons encore. Adieu, et toujours à vous.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Valérie Lavalard à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Merci, bonne soirée et à la semaine prochaine.